Mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir de vous accueillir ici au nom de la ville de Paris, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, au sein de ce très beau bâtiment de l'Hôtel de Ville. Bravo à la Fondation Gabriel Péri, à l'initiative Féministe Romette pour l'organisation de cette journée de réflexion dont nous avons tant besoin en ce moment historique, où bien des questions se posent au mouvement démocratique et progressiste. Merci à toutes et tous, toutes les intervenantes et tous les intervenants, de venir partager avec nous vos savoirs et votre expérience. Je vais devoir malheureusement vous quitter assez rapidement, je vous prie de m'en excuser, mais le reste de mon cabinet reste présent toute la journée et je vous souhaite d'excellents travaux et je serai ravie de prendre connaissance donc des conclusions de cette journée. Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes dans une période préélectorale, je suis donc tenue de ne pas m'exprimer sur le bilan de la majorité municipale. De toute façon, je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent, notamment en ce qui concerne le soutien de Paris au mouvement féministe, au mouvement au pluriel et féministe au pluriel aussi, et à la mise en œuvre de politiques publiques en faveur de l'égalité femmes-hommes. Je puis néanmoins vous dire qu'en tant qu'adjointe aux droits des femmes, la prise en considération de mon action a considérablement évolué favorablement à partir notamment de la fin 2017, quand a surgi le mouvement MeToo. J'ai expérimenté in vivo le pouvoir qu'un mouvement social peut avoir sur les institutions. Depuis MeToo, la question de l'égalité femmes-hommes est devenue incontournable et malheur à celui qui, publiquement, nierait l'importance du sujet. Cela ne veut pas dire que les réponses sont partout à la hauteur, loin de là. Mais la mise à l'agenda politique de la question féministe, en particulier à travers la question des violences liées au genre, est devenue une réalité indiscutable. Les mouvements féministes sont entrés dans une phase intense d'intervention politique à l'échelle mondiale et malgré de fortes résistances, également en France. Les deux années passées auront été celles de la prise de conscience mondiale, de l'ampleur et de la diversité des violences faites aux femmes. Elles ont été des centaines de milliers à prendre la parole dans le monde entier contre les violences sexistes et sexuelles. Dans plusieurs pays comme l'Argentine, l'Espagne, la Pologne, l'Irlande, de puissants mouvements pour la légalisation ou la défense de l'avortement se sont soulevés ces dernières années. Tantôt victorieux, tantôt non, mais ils ont tous laissé des traces, forgé des convictions et de nouvelles portes aux voies du féminisme. Les femmes se mobilisent, se solidarisent, revendiquent l'égalité dans tous les secteurs. Regardez en France comment la question des féminicides et de l'utilisation même du mot féminicide s'est imposée en quelques mois. Sur les murs de Paris, avec ses collages militants, au fil de multiples mobilisations populaires et symboliques, s'appuyant sur le décompte morbide des 125 femmes assassinées par leur conjoint ou ex, soit une femme tous les deux jours depuis le 1er janvier, la société française demande au pouvoir public d'intervenir. Depuis MeToo, j'ai vu les mobilisations et les collectifs se constituer partout. De nouvelles associations, de nouvelles militantes, très jeunes, aux origines et aux parcours très divers, entrer dans la lutte. J'ai vu des hommes aussi prendre conscience et se placer à nos côtés dans les manifestations, se questionner sur leur propre attitude, sur leur éducation. J'ai vu les féministes qui ont passé leur vie dans ces luttes se sentir d'un seul coup revigorées et surtout écoutées enfin, alors qu'elles disent depuis 30 ans. C'est un mouvement de fond historique et irrésistible, un espoir pour nos sociétés. En a-t-on bien pris la mesure? Je n'en suis pas sûre, nous n'avons pas encore pris le recul par rapport à ça. Mon intuition me dit que nous ne sommes qu'au début de la déferlante et que ce qui se passe aujourd'hui est de nature à transformer durablement les rapports sociaux. Il reste néanmoins d'importantes entraves au dépassement du système patriarcal et à la constitution d'une alternative féministe pour nos sociétés. J'en vois au moins quatre. La première, c'est le renforcement des inégalités liées aux politiques d'austérité et aux choix économiques actuels. Il est clair que coupe budgétaire après coupe budgétaire, l'accès aux droits et aux services publics des droits des femmes sont devenus limités. La réalité aujourd'hui est celle d'un manque cruel de moyens financiers et humains dédiés aux politiques d'égalité et de lutte contre les violences. Celle de dysfonctionnement, de services de l'État, qui non seulement désespèrent, mais font courir des risques aux femmes victimes et à leurs enfants. Et je ne parle pas de la réforme des retraites, dont les femmes seront les premières victimes, ni de l'incapacité actuelle à faire respecter l'égalité salariale et professionnelle dans le monde du travail. Nous avons décidé d'organiser d'ailleurs un forum féministe parisien le 8 mars 2020 sur l'égalité professionnelle cette année. J'espère que nous serons nombreuses et nombreuses à participer à la grève féministe mondiale qui se prépare aussi pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes sous l'égide du CNDF en France, parce qu'une alternative féministe ne peut être dissociée d'un combat plus large pour la justice sociale et la répartition des richesses, et donc pour l'autonomie des femmes. La seconde entrave, c'est la progression très alarmante des forces d'extrême droite partout dans le monde et l'accession aux plus hautes fonctions d'hommes populistes et violents qui se font les porte-parole de ces conceptions les plus réactionnaires des femmes et de la famille. La France n'est malheureusement pas épargnée par ce phénomène, avec d'ailleurs, dans le cas du Rassemblement national, une usurpation des exigences féministes à des fins racistes et discriminatoires en direction des femmes musulmanes particulièrement, ou des supposées femmes musulmanes. Ce qui est très inquiétant, c'est aussi la lâcheté de notre gouvernement qui, au lieu de mener le débat d'idées sur ces questions, donne des gages à l'extrême droite. J'en prends pour preuve la proposition de limiter l'accès des personnes étrangères à l'aide médicale d'État. Indéniablement, cela aura une répercussion sur la santé des femmes. Autrement dit, une alternative féministe ne peut être dissociée du combat contre l'extrême droite et contre les réactionnaires. Nous en parlerons ici à Paris dans le cadre d'un 25 novembre que nous allons organiser, donc dans quelques semaines, dédié cette année à l'accès aux droits des femmes étrangères, notamment avec une journée interprofessionnelle de formation, le 21 novembre, à laquelle vous êtes toutes et tous les bienvenus, donc sur l'accès aux droits et à la lutte contre les violences pour toutes les femmes étrangères. La troisième entrave, c'est le sexisme qui perdure dans nos sociétés. Je vous invite à lire le rapport édifiant du Haut Conseil à l'égalité publié au début de l'année, ou encore le très bon ouvrage de Valérie Rey et Robert intitulé « La culture du viol à la française, du troustage de domestique au droit d'importuner ». C'est très éclairant sur les fondements sexistes de notre société et sur certaines réactions au mouvement MeToo en France. Les publicités sexistes, les représentations réductrices des femmes dans les médias et les productions culturelles, blagues et sexisme ordinaire sont encore très ancrées dans notre société. Aussi, une alternative féministe passe aussi par la culture et l'éducation à l'égalité dans le plus jeune âge, depuis le plus jeune âge et dans tous les milieux de sociabilité. La dernière entrave, malgré des progrès, est une sous-estimation par l'ensemble des organisations politiques, démocratiques, syndicales et sociales de la question de l'égalité femmes-hommes, y compris en leur propre sein. La question de la place des femmes dans notre société, dans les organisations, dans les institutions de la République est selon moi une des raisons de la grave crise de la représentation politique que nous traversons. Je pense qu'elle en est aussi une solution, pourvu, non pas que les femmes prennent la parole, elles le font, mais qu'elles soient enfin entendues. Poser la question des alternatives féministes, c'est poser la question des femmes dans les lieux de pouvoir comme un enjeu démocratique majeur. Car se pose aujourd'hui avec fracas la question des débouchés politiques au mouvement de fond en cours. Je suis persuadée que ce sont des mobilisations féministes qui ont forcé l'organisation du Grenelle des violences conjugales. Les 60 propositions des groupes de travail nationaux présentées hier sont plutôt bonnes, mais je ne vous cache pas ma réserve quant aux moyens qui sont effectivement alloués et leur mise en œuvre, notamment pour la police et la justice, le logement et les associations. Si on regarde juste le projet de loi de finances du gouvernement, les lignes budgétaires qui donnent des formations à la police et à la justice sont réduites. Et dans le même temps, on annonce qu'il y aura plus de formations sur les violences faites aux femmes. Donc ceci est peu crédible. À ce jour, et alors qu'il s'agit de l'entrave numéro 1, en particulier à Paris, aucune mesure n'a été annoncée concernant l'hébergement d'urgence et le logement des femmes victimes de violences. Nous avons même appris la possible fermeture d'un des rares lieux secrets où les femmes en danger sont accueillies du fait de la réforme tarifaire de l'hébergement d'urgence. Le fameux fonds Catherine, dédié aux associations à Paris, c'est 13 000 euros. soit 1 euro par femme déjà accompagnée par les associations, moins qu'un café. Celles-ci ne peuvent malheureusement plus faire face aux demandes d'accompagnement des femmes victimes de violences. Les propositions annoncées par la secrétaire d'État ne touchent pas ce qui coûte cher. Et comme vous l'avez sans doute lu dans le décryptage de Nous Toutes, du fameux milliard annoncé pour la lutte contre les violences conjugales, très peu de fonds ont été réellement dégagés. Il s'agit d'un joli ripollinage du budget, mais certainement pas d'une réponse à la hauteur des besoins, à la hauteur financière. La prévention, l'éducation à l'égalité sont, elles, inexistantes. Je ne rentre pas non plus dans les détails, mais je tenais à vous alerter sur ce point, car je suis inquiète de ces réponses, vu les besoins et les attentes. Peut-être juste un autre sujet qui n'est pas du tout abordé, celui des enfants co-victimes. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de réflexion sur les enfants co-victimes et de moyens mis à disposition pour les enfants co-victimes. L'espoir du regain féministe de nos sociétés ne doit pas être douché par des réponses politiques faibles, dictées par des règles budgétaires aberrantes. D'autres choix sont possibles et j'espère que nous serons toutes et tous le 23 novembre dans la rue pour la manifestation, pour les manifestations partout en France, à exiger de réelles mesures pour éradiquer les violences et pour placer l'égalité entre les femmes et les hommes encore plus haut dans l'agenda politique de ce pays. Je veux remercier également les membres du bureau, je me permets un petit mot personnel, les membres du bureau de Élus contre les violences faites aux femmes, l'association que je préside depuis peu et qui sont ici mobilisés, parce que des élus pionnières se sont engagés sur les violences faites aux femmes il y a 10 ans, 20 ans même, et elles ont permis ce premier pas pour que des politiques publiques soient mises en place pour en finir avec les violences faites aux femmes, parce qu'il est possible d'en finir avec des politiques publiques sérieuses. Donc je me permets de les saluer et de les remercier au passage, puisque certaines sont ici parmi nous. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir choisi de venir à l'Hôtel de Ville pour cette journée de travail. Et merci pour d'avoir choisi cette thématique-là. Merci à vous.